des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par le Congrès de Québec solidaire et plus particulièrement cette proposition visant à éradiquer les publicités pro-VUS d'ici 2022.
Québec solidaire est un parti d'idées. Il y a des idées qui viennent de la base, d'autres de l'aile parlementaire. Et parfois, ben ça passe pas toujours les nombreuses évaluations qu'un parti au pouvoir peut faire. Et donc, on lance toutes sortes d'idées.
Mais est-ce que c'est pas une bonne idée? Moi, je trouve que ça, on pourrait faire un parallèle avec le tabac.
Oui.
C'est mauvais pour la santé de la planète et pour la santé personnelle de,
ben moi,
de se promener en VUS et de les multiplier.
Moi, comme citoyen, je trouve que c'est une excellente idée d'interdire le Publisac ou d'interdire la publicité sur des produits qui sont...
Ah, pas le Publisac, moi. Concentrons-nous sur le VUS.
Mais je suis d'accord avec l'idée. Et d'ailleurs, c'est un moindre mal entre interdire la vente du produit ou interdire la vente interdire la publicité sur la vente de ce produit-là, on a un moindre mal qui risque d'être avancé à l'étape de l'atteinte minimale. Mais c'est sur quoi je veux insister ici, parce qu'il y a de la constitution partout.
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est que
d'où cette chronique?
Interdire la publicité sur les VUS, ben, c'est poser une question, un argument, un débat, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on sait pas, on connaît pas l'issue ou le dénouement de ce débat-là.
Je veux dire, c'est soulever la limite de la liberté d'expression.
Exactement. Ça pose une question de conformité à la Charte canadienne.
Oui.
C'est toujours intéressant de voir comment cette liberté d'expression peut prendre des dimensions commerciales et de voir ici, est-ce que une telle interdiction passerait le test de la Charte, passerait le test des tribunaux. Toujours les mêmes critères, on les connaît. Un objectif valable. C'est clair qu'il y en a un ici, des moyens proportionnés. Et donc, est-ce que les moyens employés, l'interdiction, est-ce un moyen raisonnable? Et là, ça serait débattu. On a des exemples jurisprudentiels dans le passé.
Oui, je t'ai parlé de la cigarette.
Tu as mentionné la cigarette qui a fait l'objet d'une saga, là, d'après moi. Ça a dû faire vivre quelques cabinets d'avocats pendant quelques années. Une immense saga sur l'interdiction de la publicité pour finir à terme par dire que les différentes formes d'encadrement de la publicité du tabac passaient le test.
Ouais.
Même s'il y avait une limitation de la liberté d'expression, elle était raisonnable et justifiée. La loi sur la protection du consommateur au Québec qui interdit la publicité...
Pour les enfants?
Oui, ça a été une décision très importante dans les premières années. Une des premières décisions sur la liberté d'expression. On dit la liberté d'expression commerciale existe, mais...
Parce que le Parti québécois arrive au pouvoir en 76, adopte sa loi autour de 77-78... Puis après ça, la charte 82, arrive en 81-82.
Le temps que ça monte jusqu'en Cour suprême, on est autour de 87-88 et on a cette décision. Donc, on a quand même plusieurs décisions où on dit que la liberté d'expression peut être limitée.
Il en manque une, là, non?
Malheureusement, on en a une qui va en sens inverse. Quand il fut question de liberté d'expression commerciale en matière linguistique, là, soudainement, la liberté d'expression a été plus forte que l'objectif important qu'est la
Rappelle-nous
protection de
un
la
peu
langue française.
L'arrêt Ford.
Ben, c'est dans les mêmes années que l'affaire sur les jouets. Hein, et là, ce qui s'est passé cette fois, c'est qu'on disait la loi, la Charte de la langue française qui oblige un affichage commercial extérieur unilingue français est une violation de la liberté d'expression commerciale, car cette liberté d'expression commerciale comprendrait la liberté de s'exprimer, d'un commerce de s'exprimer dans la langue de son choix.
Ooh.
Et évidemment, après, il y avait le débat sur la raisonnabilité de la chose. Et à ce moment-là, la Cour suprême a considéré que ce n'était pas raisonnable que le scénario de la prédominance de l'affichage commercial en français, lui le serait. Et c'est un peu ce qui s'est imposé, mais quelques années plus tard, après que le gouvernement Bourassa ait recouru à la dérogation.
Donc, juste pour récapituler, la liberté d'expression commerciale, il y en a pas pour les cigarettes, il y en a pas non plus pour Irwin Toy, les jouets.
Oui.
Mais pour limiter la loi 101, là, il y en a une.
Exactement. Donc, on voit que ça peut aller dans toutes sortes de directions et que ces choses-là, c'est des choses qui se discutent, peut-être en fonction parfois des priorités des décideurs, puis de la manière dont les lois sont rédigées, mais c'est pas des critères qui sont si prévisibles dans leur administration.
Ah, oui.
Et c'est pour ça que lorsque Québec solidaire propose une idée intéressante d'interdire certaines formes de publicité, ben on peut pas à 100% être certain que ça passe ou pas le test des tribunaux. Et c'est pas tout, hein. Il y a du constitutionnel partout.
Oui.
Imaginons que Québec solidaire prend le pouvoir et veut interdire la publicité sur les VUS. Mais vous voulez interdire quelle publicité?
Ouais.
Celle sur le web, celle dans les journaux, celle dans les grands médias, télévision, radio. Ben, certains de ces médias entrent dans la compétence fédérale sur le CRTC, radio.
Ah non!
Et donc, le jour où cette idée serait mise de l'avant, on peut penser que certains avocats qui représenteraient ces grandes entreprises automobiles et qui auraient évidemment les moyens de se défendre jusqu'au bout en Cour suprême avanceraient aussi des arguments de partage des compétences qui, au fond, se résumeraient ainsi. Une loi québécoise ne peut pas venir encadrer. On a fait la même chose dans Irving Toy. Avec un succès très modeste. Moi, j'y crois pas à cet argument-là, mais c'est pour montrer comment une idée qui a l'air très, très éloignée du droit constitutionnel finalement mobilise liberté d'expression et partage des compétences. La Constitution, qu'on la trouve importante ou pas, finit toujours par nous rattraper.
C'est bon, je pense que c'est la devise de cette chronique, mon cher Patrick. La loi 21, aussi était à l'ordre du jour.
Oui, probablement.
Militants de Québec solidaire.
Il semble
la loi 21, évidemment, c'est la loi sur la laïcité.
Oui, et c'était probablement pas la volonté de l'aile parlementaire et de l'establishment de Québec solidaire, mais on voit que le débat est venu de la base très rapidement.
Mais l'aile parlementaire a gagné, finalement.
Oui, par des propositions d'urgence, on voulait proposer un débat qui n'était pas dans le cahier principal de propositions. Et on voit tout de suite, tant dans la place que ça occupe dans le compte-rendu des débats de Québec solidaire du week-end, que dans le contenu de ces débats, que la loi 21 va être au cœur du débat de la prochaine élection. Mm-hmm. Tous les partis vont être obligés de se prononcer sur pour ou contre la loi.
Eh oui.
Et là, c'est du 2-2, hein. Parti québécois et Coalition Avenir Québec contre Parti libéral et Québec solidaire. Pour ou contre le renouvellement de la dérogation, c'est un peu la porte...
Il faut rappeler que la dérogation, c'est pour 5 ans.
Oui.
En tout cas,
oui,
celle d'Ottawa.
C'est ça.
Peut-être pas pour celle de Québec.
Non, mais celle sous
la charte. Il y a la charte québécoise, puis il y a la charte fédérale. La charte fédérale, elle est limitée à 5 ans.
Donc, c'est déjà un peu la position qui se dessine du côté du Parti libéral. On n'est pas contre la loi, mais on est contre ce mécanisme de la dérogation. Donc, on ne le renouvellerait pas, ce mécanisme, et ainsi les tribunaux feraient la suite du travail, j'imagine. C'est un peu le pari. Assouplissement versus élargissement. Dans certaines propositions à Québec solidaire, on voyait l'enjeu de l'assouplissement. Il n'y a pas de formation politique qui, pour le moment, dise qu'il faudrait une loi 21 un peu plus sévère, un domaine d'application des interdictions plus étendues.
Ben, moi, je pense... Le Parti québécois, peut-être?
Peut-être. Faudrait que je vérifie. Okay. Mais ce genre d'effet domino, on le voit souvent en France, hein, une première loi sur les interdictions et met la table à une autre ensuite. J'espère qu'au Québec, on va plutôt consolider le compromis que nous avons en place, qui est pas parfait, mais qui à mon avis mérite d'être défendu devant les tribunaux notamment. Mais cette tentation de l'assouplissement ou de l'élargissement pourrait faire partie du débat. Et en plus, le calendrier de la Cour d'appel. Il y a une audition à venir en Cour d'appel. Je la prédis avant l'élection, peu avant l'élection. Aurons-nous un jugement de la Cour d'appel en pleine élection? Ça peut faire une différence. Mais
oui, ça arrive, ça, des fois.
Pour toutes ces raisons-là, il faut s'attendre à ce que la loi 2021 soit au cœur des débats de la prochaine élection.
Je pense que c'est une prédiction qui n'est même pas hardie. Parlons du contrôle des armes à feu maintenant, parce qu'il y a toutes ces fusillades à Montréal, puis là, il y a comme une espèce de conflit qui s'installe entre les différents gouvernements. Le municipal dit « on veut pas de la responsabilité ». Le Québec dit « on pourrait la prendre, mais écoutez, c'est ce que c'est pas pan-canadien ». Puis le fédéral dit « mais moi, je veux me départir de cette compétence-là ».
Deux courtes observations. Souvent, dans le fédéralisme, on voit des ingérences du fédéral dans les provinces ou vice-versa. Donc, c'est des empiétements. On a des conflits de compétences parce que tout le monde veut exercer la compétence.
Oui.
Là, ici, c'est comme si on a un conflit d'incompétents.
Oui. Personne ne veut être compétent.
Personne ne veut s'en occuper. Personne ne veut assumer la responsabilité, notamment à Ottawa, qui... En partie pour des raisons électorales, parce que la question des armes à feu dans le reste du Canada, surtout dans les circonscriptions qui ne sont pas urbaines, en région, c'est difficile sur le plan de l'acceptabilité sociale. Donc, il y a cet aspect, le conflit d'incompétence qui est vraiment fascinant. Et deuxième observation, il y a quand même un contraste entre le Québec, qui, sous les années du Parti libéral du Québec, a été très actif pour créer notre propre registre des armes à feu, qu'on occupe cette compétence. Le Québec s'est rendu en Cour suprême à deux reprises dans ce dossier. Et là, tout à coup, il y a comme une porte qui est ouverte par Ottawa pour qu'on occupe une compétence accrue. Et là, du côté de la Coalition Avenir Québec, on sent où est l'autonomisme en matière de contrôle des armes à feu. Il me semble que ce sera, en tout cas, à suivre dans les prochaines semaines.
L'affaire Montpetit, maintenant, on sait que Marie Montpetit a été expulsée du caucus libéral, je dirais même du parti au complet, parce qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections pour le parti. C'était une étoile montante. Alors, est-ce qu'on n'a pas violé son droit, Patrick, à... tu sais ce que Bernard Landry disait, le audi alteram partem, le droit d'être entendu quand on est accusé, c'est des accusations actuellement qui sont anonymes, on n'a pas de plainte formelle. Parfois, on dit qu'on a une plainte formelle, parfois, on dit qu'on n'en a pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas violé ses droits un peu comme elle l'a dit dans une entrevue à TVA récemment?
Et moi, j'ai aucune idée du contenu des plaintes, là. Donc, mais ce qui est intéressant dans ce dossier, effectivement, le droit repose sur un principe d'équité procédurale.
Ouais.
Donc, il faut être traité, peu importe comment on va, le dénouement du dossier, il faut que le dossier soit bien traité. Puis en matière d'accusation, on va au-delà de l'équité procédurale, on parle de véritables garanties beaucoup plus approfondies pour l'accusé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment dans un...
Puis une des garanties, c'est ça, audi alteram partem.
Évidemment, évidemment.
C'est de se faire entendre quand on est accusé, quand il y a des plaintes contre nous. Mais elle a dit qu'elle n'a même pas pu s'exprimer
avant d'être expulsée. Là, on est dans une situation où on ne peut pas être entendu. Il n'y a pas d'arbitre, indépendant, il n'y a rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on ne peut pas parler du droit au singulier. Il y a plusieurs formes de droit dans cette affaire-là. Il y a plusieurs formes de, pardonnez le mot, mais de normativité. Quand on lit le dossier, on se dit, y a-t-il une faute criminelle? Y a-t-il des accusations? La réponse, c'est non. Si c'était le cas, là, on serait face à un processus qui aurait ses règles du jeu. Mm-hmm. Est-ce qu'on a une faute civile, type droit du travail, harcèlement psychologique au travail? Peut-être que non. Je ne connais pas la nature des plaintes, mais il n'y a pas de processus qui est lancé. Donc, on peut pas se défendre sous ce parapluie-là.
Parce que ça existe, le harcèlement psychologique.
Évidemment.
Ça a été inscrit il y a une quinzaine d'années dans nos lois.
Ça pourrait faire l'objet d'un débat.
D'une plainte civile.
Exactement. Okay. On est plutôt face à une forme de normativité sociale, morale, politique. Et là, on a un caucus qui a ses règles du jeu. C'est un peu comme l'Église avait son droit canon, son droit qui organisait la discipline interne au sein de l'Église.
Oui.
Les partis politiques ont leurs propres règles du jeu. Et c'est ça, au fond, le processus que l'on vit ici. C'est les autorités internes du parti qui décident de... préventivement ou de manière informée, rendre leur propre justice maison. Et là, si jamais un jour un député comme Mme Montpetit décidait d'aller devant les tribunaux, parce que ce processus-là aurait été inéquitable. Est-ce que les tribunaux vont se mêler de cette démocratie interne propre au parti? C'est pas évident.
Non.
Surtout quand on y ajoute la couche supplémentaire. Un, il n'y a pas de droit à faire partie d'un caucus. C'est pas un droit.
Non.
C'est comme c'est un club. Là, on en fait partie si... c'est comme une libre
association. Si le club est
d'accord,
exactement. Oui, c'est ça.
Et surtout, il faut y ajouter la dernière couche, les privilèges parlementaires qui sont peut-être en cause dans cette affaire-là, j'en ai aucune idée, mais des fois, quand ça concerne des relations avec des employés de l'Assemblée, c'est souvent protégé par le privilège. Donc là, on a affaire à un droit qui est différent du reste du reste de notre droit commun, c'est-à-dire que l'Assemblée est supposée de gérer elle-même ses propres contrats, ses propres relations de travail, sa propre sécurité. Et donc, admettons qu'il y aurait matière à un débat judiciaire, mais parce que ça se passe à l'Assemblée, ça se peut que ce soit mieux de se régler au bureau de régie interne ou à la présidence de l'Assemblée.
Okay.
Donc, on voit comment c'est pas un problème... Il n'y a pas le droit qui apporte une réponse, mais il y a bien plusieurs formes de droit. Droit criminel, droit civil, droit du travail, droit des partis politiques à l'interne, une normativité de l'image, de la morale sociale. Et à la fin, en plus de ça, les privilèges. Donc, c'est immensément compliqué. Comme M. Michaud, quelques années, qui était tombé un peu dans les mailles
Yves
du
Michaud.
Filet. Yves Michaud se sentait victime d'une injustice, d'une diffamation, mais dont il ne pouvait pas
Parce qu'il y avait eu une motion pour condamner certains de ses propos.
Oui. Il voulait saisir les tribunaux.
Qui n'était même pas certain de ses propos, finalement. Il n'avait pas prononcé ces mots-là, mais il y avait une motion à l'Assemblée nationale, quand même.
Il voulait saisir les tribunaux de la question. Puis là, il se heurtait à un mur parce que l'univers qu'est l'Assemblée nationale est protégé par des règles du jeu qui sont différentes, comme les partis politiques aussi. Et donc, j'ai l'impression que les mailles du filet sont un peu trop amples et que ce genre de situation-là échappe à un vrai examen.
On venait de consulter, si l'avocat de Mme Monpetit venait de consulter, qu'est-ce que tu lui suggérerais?
Je ne sais trop parce qu'on connaît pas les faits et la nature de la plainte. Mais admettons que les plaintes mériteraient de faire l'objet d'un débat contradictoire. Je pense qu'il est déterminant, c'est est-ce qu'il y a eu le débat sur y a-t-il eu une faute? Est-ce que ça s'est passé à l'Assemblée ou en dehors des murs de l'Assemblée? Ça serait la première question à résoudre pour voir où amener ce débat.
Conseil pro bono de notre prof Taillon. Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique.
Merci.
Il est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.